French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Notre invité du jour est un passionné. Depuis tout petit, Kevin s'intéresse au speedway. Ce sport de course à moto nous vient des États-Unis, où les premières courses sur terre battue eurent lieu dès 1902. C'est sa passion qui l'a amené à s'expatrier, pas aux US, mais en Pologne, où le speedway est l'un des sports les plus populaires. Après quelques voyages de reconnaissance, Kevin en est certain, c'est dans ce pays qu'il doit partir vivre. C'est parti pour découvrir ensemble l'histoire de Kevin et de son expatriation par passion. Bonjour Kevin.
Bonjour à toi.
Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Ben merci de l'invitation. Moi qui suis un auditeur presque de la première, ça me fait très plaisir.
C'est vrai que tu nous suis depuis les débuts et que tu as postulé au questionnaire pour participer tout au début. Donc merci à toi.
Ben c'est une joie parce que en plus je remarquais qu'il y avait beaucoup de gens des USA et je me suis dit ah mais la Pologne n'est pas assez représentée, donc je me suis dit pourquoi pas présenter un étranger, enfin un français qui vit en Pologne
et vrai, raconter un petit peu l'histoire. Tu as tout à fait raison.
L'histoire, voilà.
Donc voilà, tu viens de le dire, tu vis en Pologne.
Exactement, je vis en Pologne maintenant depuis 5 années pleines, j'entends ma 6e année ici.
Donc, d'accord, tu es où en Pologne? Parce que nous, enfin moi en tout cas, je sais que la Pologne, j'ai en tête Cracovie, Varsovie et c'est tout.
Oui, alors moi en fait je suis entre Berlin et Varsovie,
d'accord.
Je suis dans la ville de Poznań qui est une ville d'environ 500 000 habitants.
Grosse ville quand même.
C'est quand même une grosse ville, c'est vrai, mais la Pologne n'a pas vraiment de petite ville à proprement parler. Les Polonais vivent presque, on va pas dire exclusivement, mais peut-être 80-85% dans les villes de plus de 35-40 000 habitants.
Ah ouais.
Donc, ce qui fait que pour la Pologne, Poznań, c'est une grande ville, mais ce n'est pas une très grande ville. Ce qui est assez ambigu, parce que quand on rencontre des Polonais qui vivent dans des villes de 40 000 habitants, ils disent « je vis dans une petite ville ». Donc,
je vis à la campagne presque, c'est ça?
C'est presque ça. C'est très bizarre. Même pour des villes en plus qui ont, je sais pas, peut-être 5 000 habitants, les villes ont quand même des bâtiments de 4-5 étages, des HLM.
Ah, grosses infrastructures.
Exactement. Et c'est vraiment très étrange de rencontrer des gens qui disent j'habite dans un village, mais dans un village où il y a en fait des bâtiments de 3-4 étages.
Ah oui, non, c'est pas du tout comme ça en France.
C'est ça. Moi, ça m'a fait un changement parce que je vivais dans un petit village de 700 habitants dans le sud-ouest de la France.
D'accord.
Et le choc au début, j'étais arrivé à Cracovie dans un premier temps, vivre.
Donc, et, très grosse ville.
Très grosse ville parce qu'il y a environ un petit peu plus d'un million d'habitants. Et
ah,
surtout,
oui.
Il y a entre 6 et 7 millions de touristes par an. Donc,
je pensais pas.
Donc le fait est que ça a été vraiment un gros choc. Mais pour faire une petite anecdote comme ça, commencer là-dessus, quand mes parents sont venus pour la première fois en Pologne, enfin en tout cas me voir quand j'habitais ici.
Te rendre visite.
Exactement. Ils sont montés dans un tramway et ils ont pris des photos. Parce que pour eux, prendre un tramway, c'était quelque chose de fou. Prendre un transport en commun, c'était incroyable.
Et oui, voilà. Parce que de là où d'où tu viens, la région d'où tu viens, c'est vrai qu'on prend essentiellement sa voiture. Le Sud-Ouest n'est pas excessivement bien desservi au niveau transport en commun et donc du coup voilà, c'est voiture et voiture.
Exactement. Moi j'ai tout le monde passe son permis à 18 ans et un jour. donc c'était vraiment un petit peu un choc pour moi. Déjà un choc d'arriver dans un nouveau pays. Enfin, en tout cas d'y vivre, parce que j'avais fait quelques vacances un petit peu partout en Europe, mais surtout d'arriver dans un pays où personne ou presque n'a de voiture, parce que tout le monde habite dans les grandes villes, et dans les grandes villes, il y a des transports en commun. Et en plus, commencer, aller au travail en bus, donc regarder les horaires de bus, etc. Et moi, ça m'a fait un vrai choc culturel d'entrée en arrivant en Pologne.
Mmh. Ah oui, j'imagine. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené à aller vivre en Pologne?
Alors, ce qui m'a amené à vivre en Pologne, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la première, c'est le désir de quitter la France. Je pense que c'est quelque
depuis
chose.
Depuis tout jeune?
Depuis tout jeune, parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, j'étais apprenti en boulangerie.
D'accord.
Donc, je suis rentré dans le monde adulte très vite. Vers 14-15 ans, c'était vraiment beaucoup d'heures de travail très dures, la nuit. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses du monde d'adulte, on va dire.
Oui.
Et aussi
un peu trop tôt peut-être.
Presque un peu trop tôt, mais aussi le monde d'adulte, c'est bien, mais c'est surtout les problèmes d'adulte et les problèmes comme voilà trouver du travail, etc. Et je me suis dit bon, ça va être compliqué de mener une vie épanouie, même si j'adorais mon métier, c'était vraiment la chose que je peut-être la seule chose qui me faisait accrocher au monde d'adulte, le fait d'aimer mon métier de boulanger.
Oui.
Puis voilà, donc j'ai un petit peu eu ça de me dire si je pars ailleurs en France, je vais pas me sentir chez moi. Si je reste dans ma région et dans mon département natal, je vais dépenser de l'argent pour rien parce que mes parents vivent à quelques minutes de là, donc voilà, je savais pas trop quoi faire et je me suis dit, bon, pourquoi pas partir à l'étranger.
Tu te sentais un peu enfermé dans une vie qui correspondait pas?
Ben ou c'est surtout que j'avais pas le choix. Alors après j'ai toujours rêvé d'être adulte en fait dans ma jeune vie. Je me rappelle quand j'avais 10 ans, je voyais mon père, c'était le héros de la famille, etc. Et j'ai toujours voulu être vieux. En fait, c'est très bizarre, mais avoir une vie tranquille, rentrer du boulot, la routine. En fait, j'adore la routine. C'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est ce qui a fait que quand j'ai eu 16 ans, j'avais déjà presque des coups de blues un petit peu comme les adultes, avec rentrer à la maison, être fatigué, aller au lit, se lever, etc. Mais j'avais ce désir-là.
Mais en même temps, je te coupe, mais ces coups de blues, tu les avais parce que justement, tu travaillais depuis déjà un moment, en fait. À 16 ans, c'était déjà 2 ans sur le marché du travail et t'avais déjà des pensées d'adulte.
C'est ça. Et moi, j'ai eu mon diplôme à 16 ans et demi de boulanger. Et le fait est que, 16 ans et demi, je trouvais ça un petit peu trop tôt. Donc, j'ai fait une année supplémentaire de boulangerie spécialisée. Donc, j'ai eu, à 17 ans et demi, j'ai eu 2 diplômes. Et là, par contre, je suis rentré vraiment dans la vie d'ouvrier, on va dire, parce que apprenti, c'est certes 40 semaines dans l'année au travail, mais ouvrier, c'est 52. Donc, c'est un métier vraiment à temps plein. Et voilà, là, j'ai eu le permis, du coup, vers les coups de 18 ans. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais voyager. Et c'est à peu près à cette période-là où en fait, moi je suis un sport qui dans ma région, dans mon département est assez connu, qui s'appelle le speedway, qui sont des pistes de moto sur. Voilà, le nom fait penser à du NASCAR aux États-Unis, mais c'est pas spécialement comme ça, un petit peu parce que ce sont des ovales de terre battue. Un petit peu comme les vieilles pistes d'athlétisme, voilà, avec un espèce de briques concassées un petit peu. Là où des motos sans frein tournent en rond, font 4 tours sur des pistes de 400 mètres. Ce sont des motos qui vont à peu près
des motos sans frein.
Voilà, des motos qui vont à peu près à 100-120 km/h, qui font 4 tours en 1 minute, 4 pilotes. 4 pilotes, 4 tours, et en fait c'est un sport qui est très populaire en Pologne, un petit peu en Angleterre, assez populaire en Suède aussi. Puis après, voilà, il a ses petits endroits où il est un petit peu populaire, donc dans le sud-est de la France, en République tchèque, en Australie, il y a de ça quelques années aussi aux États-Unis, enfin voilà, un petit peu partout dans le monde, mais surtout en Europe.
Et alors du coup, en fait, ce sport, tu le pratiquais en France déjà?
Alors, je le pratiquais pas. Moi, je suis juste un fan de la première heure. D'accord. Parce que ma grand-mère est fan, parce que mes parents sont fans, parce que mes amis étaient fans. C'est vraiment...
Versé
voilà.
Dedans.
Exactement. Seulement, en France, voilà, le niveau n'était pas spécialement fort, mais j'avais déjà mes idoles à moi. Voilà, mes petits... Même s'ils étaient pas très forts, pour moi, vu que j'avais jamais vu meilleur qu'eux, je me disais, oh, ils sont extraordinaires, c'est mes héros. Puis, quand je suis arrivé voilà vers l'âge des 18 ans, j'ai vu qu'il y avait ce sport-là en tant que professionnel, donc pas voilà gagner un petit peu des courses par-ci par-là. Là, c'était vraiment des courses toutes les semaines avec des salaires, des salariés, etc. En Angleterre. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, c'est incroyable. Faut que j'aille là-bas. Et au même moment, j'ai eu un de mes amis qui est devenu pilote professionnel justement en Écosse, parce que c'est en Angleterre,
ah,
au Royaume-Uni.
Oui, d'accord. Ouais.
Et donc j'ai eu la chance de voyager, d'aller le voir là-bas. En même temps, j'ai fait quelques voyages pour voir certaines autres courses, parce que aussi je suis photographe de ce sport, enfin photographe de sport, mais photographe de ce sport tout particulièrement. Et donc j'ai voyagé un petit peu en Belgique, en Italie, pour voir des courses comme ça. Je me suis fait des amis en Suède. J'ai passé une semaine de vacances aussi. Donc j'ai fait plusieurs pays. Voilà, quand j'avais 18-19 ans,
T'as déjà beaucoup voyagé en fait. Jeune, tu voyages déjà beaucoup.
Peut-être pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, j'avais fait 4-5 pays, oui, grâce à ça. Donc,
C'est pas mal. À 20 ans, d'avoir déjà visité 4-5 pays par toi-même, c'est vraiment pas mal.
C'est ça. Et alors, après, je partais toujours tout seul. À part l'Écosse où je suis allé voir mon ami, où j'ai passé presque deux semaines chez lui. À part ça, je voyageais toujours tout seul. Donc le fait est que voilà, je me mêlais forcément. Quand on part tout seul, on est obligé de se mêler aux gens directement, on reste pas entre amis.
C'est vrai.
Donc ce qui fait que je me suis dit, c'est pas mal, l'étranger, ça me plairait. Je commençais à parler plutôt bien anglais, donc je me suis dit, pourquoi pas partir en Angleterre. Puis quand j'ai fait ce voyage en Suède, je me suis dit, ah, la Suède c'est quand même pas mal, tout le monde parle anglais, c'est facile de s'intégrer, les salaires en tant que boulanger sont bons. Alors l'Angleterre, les salaires de boulanger étaient très bons, surtout que les boulangers français étaient assez recherchés, mais je me suis dit, bon, je sais pas, c'est pas ça exactement. Puis, à peu près pareil à ce moment-là, quand c'était en 2012, voilà, j'avais à peu près 19-20 ans, je me suis dit, voilà, ce sport est extrêmement populaire en Pologne, c'est le troisième sport le plus suivi après le foot et le volley.
Troisième sport le plus populaire.
Exactement. En hiver, c'est le soir-ski.
C'est fou.
Mais l'été, c'est vraiment le speedway qui ici s'appelle Jugel. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire si j'arrive à y aller et à vraiment voir une course, ça serait fou. Et
parce que déjà, tu t'imaginais aller en Pologne pour voir une course de ce sport-là. Exact. Je n'arrive pas à me souvenir exactement du nom en polonais. Et donc, du coup, tu t'imaginais pas du tout y vivre. Au départ, c'est vraiment voir ce sport, le sport que tu aimes, que tu adores.
Pour moi, la Pologne, j'avais vraiment l'image du français, alors un petit peu cliché, pas que français, mais voilà, cliché, où il fait froid, tout est gris. Mais je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille, parce que c'est vraiment, le niveau est extraordinaire, l'engouement est fou. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu un petit coup de chance, c'est quand justement je partais en Italie, j'étais en Italie pour une course, j'ai rencontré un mécanicien d'un très bon pilote, un des 30 meilleurs mondiaux, et je lui dis, je pars en Pologne la semaine prochaine, je vais voir une course, parce que là-bas c'est des, en Pologne d'ailleurs, enfin, quand je parle de pilotes professionnels, ce sont des pilotes qui roulent pour un club et le club appartient à une ville, un petit peu comme au foot.
D'accord.
Et ce sont des équipes de 7 pilotes qui s'affrontent. Donc, qui s'affrontent tous les dimanches en Pologne. Et je lui dis, voilà, je viens dans cette ville-là. Je sais que le pilote en question, pour qu'il était un mécanicien, roule dans cette ville. Je me suis dit, mais est-ce que combien ça coûte et tout, l'entrée au stade. Et il m'a dit, tu sais quoi, quand tu viens, tu m'appelles on se voit et je te donne un bracelet pour aller dans le parc coureur, là où les motos sont garées. Comme ça, tu pourras voir un petit peu les coulisses, voilà, les pilotes de près, etc.
Waouh.
Et alors, je lui ai dit, c'est super.
De voir des étoiles dans les yeux, là, à ce moment-là.
Exactement. Et du coup, le voyage se fait, du coup, avec mon meilleur ami. On est en juillet 2013. En plus, il y avait vraiment beaucoup de péripéties parce que il y avait pas de vol direct vers la Pologne. On a dû passer par l'Angleterre, faire une nuit blanche dans l'aéroport où on a rencontré une Chinoise qui était toute seule. C'était extraordinaire. On a vraiment vécu des histoires folles.
C'est fou de devoir passer par l'Angleterre pour aller en Pologne. C'est quoi, 1h30 de vol Paris-Varsovie?
Oui, même ouais, environ 1h20, 1h30, c'est ça. Hein.
Oh là là, la mission.
donc on atterrit du coup en Pologne. On atterrit dans la ville de Katowice, qui est à 1h à l'ouest de Cracovie.
D'accord.
Et là, on atterrit et on se dit, bon, comment on doit aller dans la ville? La ville s'appelle Częstochowa. Et la ville est à 60 km, mais 60 km de national, donc environ 1h20 de route, je crois, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on y va? Et là, on s'est dit, bon, ben, on sait pas comment y aller, on connaît pas les transports en commun, on va prendre le taxi. Du coup, on a pris 60 km de taxi. Il s'est avéré que, ben, c'est là un petit peu qu'on a vraiment commencé à découvrir, parce qu'on a commencé à découvrir les prix polonais, qui sont 2 à 3 fois plus bas qu'en France. Mais tout D'accord. ce qui est taxi, c'est vraiment 10 fois plus bas qu'en France. Je crois qu'on a payé, j'ai plus la somme en tête, mais je pense qu'à deux, on a dû payer 50 euros. Quelque chose
pour
comme
60
ça.
Kilomètres. Ah
pour
oui.
65 kilomètres de mémoire, exactement.
Ah ouais, non, c'était pas, enfin, de ce qu'on s'imagine par rapport à ce qu'on va payer en France, c'est pas énorme.
Ah oui, là, c'était fou, mais la suite va vous surprendre, j'ai envie de dire. On arrive à l'hôtel, on dépose nos valises, et l'heure du match était seulement quelques heures plus tard. Et on se dit, bon, eh ben, on va aller au match. On arrive, j'appelle mon ami, il me donne les bracelets. Et là, on est rentré dans le parcours où il y a toutes les motos garées, les pilotes et tout. Il y avait, les commentateurs de la télé qui étaient en train de se faire maquiller. On avait, non, ça va pas parler aux auditeurs, mais je veux dire, on avait 3 des 10 meilleurs pilotes mondiaux à 2 mètres de nous. À un moment, il y a un mec de la sécurité qui vient nous voir, qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas être ici ?» Je lui montre, on lui montre nos bracelets, mais on ne parlait absolument pas polonais. Donc, il comprenait pas pourquoi les gens qui ne parlaient pas polonais étaient à cet endroit-là, à ce moment-là.
Avaient le droit d'être là, ouais.
Voilà, donc il nous a fait comprendre que quand le match commence, on est obligé d'être en tribune. Donc ça, je le savais à peu près. Donc voilà, le match commence, on est en tribune. Et quand la première manche commence, parce que ce sont des 15 manches de 4 tours, du coup.
D'accord.
Et là, quand la première manche se termine, moi et mon ami, on a presque pleuré. Les fans de ce sport tentent à dire que aller en Pologne pour voir du speedway, c'est comme être chrétien et aller au Vatican ou être musulman et aller à la Mecque. C'est l'accomplissement,
d'accord,
en fait.
Okay. Donc, alors du coup, t'es vraiment, c'est ta première rencontre avec la Pologne, ce juillet 2013, c'est la première fois que tu viens, c'est la première fois que tu assistes réellement en plus à ce sport que t'adores.
Exact.
Est-ce que c'est un gros choc? Est-ce que ça te donne encore plus envie de revenir? Est-ce que déjà tu te projettes dans l'avenir en disant « c'est là que je veux vivre » ?
Pas du tout. Là, j'étais vraiment, je vivais l'instant. C'était,
d'accord.
Je me disais, parce qu'en fait, la vraie barrière qui m'a pas fait penser ça, c'est la langue. La langue était tellement différente que je me suis dit, bon, déjà, je parle assez bien anglais, ce qui est quand même, pour un français, pas spécialement commun, surtout pour un jeune, on va dire, de 20 ans. Donc, voilà, je suis parti dans cette optique-là, mais le fait est que, voilà, 2-3 jours plus tard, je poste une photo sur Instagram avec un petit hashtag de la ville. Quelqu'un voit mon hashtag, like ma photo, je vais sur ce profil, je vois rien de spécial, et entre-temps, c'était une femme de 32 ans, qui m'écrit, toi et ton ami, vous êtes dans la ville, ben c'est super, vous voulez pas boire une bière, c'est incroyable, des Français dans cette ville-là, parce que c'est vraiment une ville pas très populaire, c'est un peu comme si un Polonais en France est assez régulier, mais je sais pas, un Équatorien vivait à Dijon, c'est vraiment...
D'accord, parce que c'était une Polonaise, elle.
Oui, c'était vraiment une Polonaise de la ville, qui est un petit peu choquée que 2 Français se retrouvent dans sa ville, pour voir un match.
Plus jeune, en plus.
On était assez jeunes. Et du coup, elle m'a invité on était un mardi soir. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, je passe te chercher à l'hôtel, je t'amène à la maison à boire de la vodka.
Alors. Ah, ok.
Le cliché, je me suis
dit, pourquoi je m'embarque, quoi?
Exactement. Elle vient me chercher, je me rappelle, avec sa Mercedes, elle se gare en bas. Et elle m'amène chez elle, on boit de la vodka, et donc je lui raconte un petit peu ma vie, je lui dis, ben voilà, je suis photographe de speedway, oh c'est super, tu sais quoi, je connais des photographes et tout. Et là, elle commence à me faire une petite liste de noms, une dizaine de noms, et je crois que le dernier ou l'avant-dernier, elle me dit, voilà, ça c'est je citais son nom, de toute façon, même s'il va pas écouter, elle me dit, ça, c'est Jarek Pabian. Je dis, attends. Tu connais ce mec-là? Et ce mec-là, en fait, c'est le numéro un dans la photographie de Speedway, dans le monde entier. Enfin, en tout cas pour les fans de ce sport, tout le monde connaît son nom, même si ce n'est qu'un photographe. C'est pas quelqu'un de populaire.
Oui, mais c'est lui qui fait les photos de ce sport.
Exactement. Toutes ces photos sont parues partout. Et là, elle me dit, bah oui, c'est un très bon ami depuis longtemps, etc. Si tu veux, je fais un repas jeudi. T'as qu'à venir avec ton ami. Parce que j'étais tout seul, d'ailleurs, à boire des
verres de vodka avec.
Voilà. Et c'est là qu'elle me dit, mais tu sais quoi, tu viens, je fais une bouffe, je vais emmener quelques autres amis. Voilà, on va être une dizaine, t'as qu'à venir, ça va être super. Et là, j'ai rencontré mon idole, quoi. Tout ça à cause de hashtag, en fait. Ouais. Et puis voilà, le fait
que... C'est comme ça que du coup, t'es vraiment tombé amoureux de la ville.
Et là, c'était le début. Je me suis dit, mais les gens sont incroyables. Donc, je rencontre ce mec-là, voilà, tout le monde, on s'entend bien. Et puis, l'heure est de rentrer 7 jours ou 8 jours plus tard, en France. On est à l'hôtel et on demande à la réceptionniste, on voudrait aller à Wrocław. Wrocław, c'est une ville qui est à peu près à 250 kilomètres. On lui dit, ben, on voudrait y aller parce qu'on a notre avion dans la soirée. Et elle nous dit, ben là, il faut prendre le train, il faut changer à Katowice, et puis voilà. Et alors déjà, prendre un train en Pologne, c'est, mais comment on va faire? On parle pas la langue, pas spécialement grand monde ne parle anglais. Et on s'est dit, ben on va prendre le taxi. Donc on a pris le taxi. Parce qu'en plus, tous les taxis refusaient de nous amener, parce que c'était à 2h30 de là. Donc, puis bon, il y a un taxi qui a accepté, donc on a pris le taxi. Et je suis rentré en France, d'ailleurs je suis rentré en France que 2 heures parce que le soir même j'avais un vol pour la République tchèque où j'allais voir un autre match de Speedway.
Ah oui, vraiment un fan absolu.
Absolu, exactement. Et voilà, là je suis rentré et puis je me suis dit, bon, la Pologne c'est fait, il faut que je voyage encore ailleurs, donc je suis parti en République tchèque, je suis revenu. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est pas mal. Il faudrait que je passe des vacances et je sais pas, j'étais parti en optique d'aller en Lettonie. Qu'en Lettonie, il y a une piste de speedway, il y avait un événement. Et puis au final, je me suis dit, bon, la Pologne, c'est pas mal, je connais un petit peu, je vais y revenir.
Ah, et donc, cette fois-ci? Entre juillet 2013 où tu fais ton premier voyage et tu nous as dit tout à l'heure que tu vis depuis 5 ans plein, donc plutôt 2014, tu as fait plusieurs voyages en Pologne.
En fait, voilà, c'est là que c'est parti. À partir de ce premier voyage, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième.
Et pourquoi tu as fait tous ces voyages? Pourquoi tu y as retourné 5 fois avant d'y vivre?
Pour la bonne raison est que après le deuxième voyage, je s'est fait tout seul et là, j'ai vu 2 villes. J'ai vu Cracovie et je suis revenu à Częstochowa. J'ai rencontré de nouvelles personnes et quand je suis rentré dans la voiture après être rentré en France après ce deuxième voyage, j'ai dit à ma mère, c'est là-bas que je vais vivre. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà les gens, voilà, je commençais à avoir une vingtaine de connaissances, j'avais vu un petit peu comment les gens étaient et surtout j'ai pris la voiture entre Cracovie et Częstochowa où il y a à peu près 1h30. Et j'ai vu que ça construisait de partout. Des lignes de train, des routes, des buildings, des bureaux, des magasins.
T'as vu un potentiel, en fait.
En fait, c'est un potentiel et surtout une économie, on va dire, une économie, mais positive, qui progresse. Et c'est là que je me suis vraiment posé la question, pourquoi? Pourquoi ça progresse? Pourquoi, etc. Et j'ai commencé à chercher sur internet. Je me rappelle que j'ai regardé des conférences de 2 heures de deux femmes qui parlent de pourquoi investir en Pologne. Des trucs qu'il y a peut-être 10 personnes qui regardent. Et je me suis dit, j'ai trouvé ça fou. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Même si la langue, c'est compliqué, c'est une grosse barrière. J'ai pas le choix. Si je veux partir en endroit où il y a du speedway, où le rythme de vie a l'air correct, en tout cas, et bon, c'est là-bas que je veux. Mais pour être sûr, il faut que j'y revienne plusieurs fois. Et c'est là que j'ai fait 3 voyages en l'espace de 8 mois. Donc en tout, j'ai fait 5 voyages en l'espace de 14 mois, quelque chose comme ça.
D'accord. Pour être sûr que c'était vraiment le pays où tu voulais vivre.
Exactement. C'était vraiment très important pour moi.
Et du coup, tu nous disais que qu'il fallait que tu apprennes le polonais, que même si tu parlais anglais, il y a la barrière de la langue. Ça a été une des plus grosses difficultés pour toi, pour vivre en Pologne, ou il y a eu d'autres difficultés pareilles qui étaient que t'as dû surmonter?
J'ai eu des surprises. Mais le fait est que je m'étais vraiment bien préparé avant d'arriver en Pologne. J'ai questionné tous les amis que j'avais, mais vraiment des questions, mais qui se comportaient tous les thèmes de la vie. Qu'est-ce que tu penses de telle chose en politique? Qu'est-ce que tu penses de telle chose sur un point de vue travail? J'ai regardé comment les Polonais travaillaient, de ce que je voyais en tout cas. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de stress, beaucoup moins de pression au travail. Je me suis aussi mis sur un groupe de Français à Cracovie et je voyais que les entreprises recherchaient tout le temps des Français. Je suis allé sur un site de travail en Pologne, on va dire une espèce de pôle emploi polonais. Et là, j'ai retapé, je crois, français Cracovie, langue française Cracovie, et je crois que j'ai eu 125 résultats. Et là, c'est fou, en fait. Je me suis dit, c'est incroyable.
C'est le français et les Français sont très demandés en Pologne?
C'est la langue française. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui délocalisent en Pologne ou alors qui ouvrent peut-être pas qui délocalisent totalement, mais en tout cas qui font faire des bureaux des backups, des choses comme ça, des choses où il y a moins besoin d'avoir une langue parfaite pour travailler.
D'accord.
Par exemple, tout ce qui est vente avec des clients. Les Français sont très attachés à la proximité et à voir le vendeur, donc ça ils le laissent en France. Mais pour tout ce qui est paperasse, on peut très bien faire ça à des Polonais ou alors des Français expatriés. Je veux dire, ça coûte 2 à 3 fois moins cher pour l'employeur, peut-être parfois 4 fois.
Mais alors du coup, toi, tu as retrouvé un travail de boulanger ou maintenant tu peux vivre de ta passion?
Alors là, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu, c'était peut-être un peu ce que j'avais le plus peur, parce que je me suis dit, boulanger, c'est vraiment mon métier. Mais boulanger en Pologne, c'est vraiment pas un métier qui est, même au point de vue culinaire, la Pologne n'est pas spécialement, ce sont pas des fins gourmets, on va dire, ils ont pas les mêmes expectations, comme on dit en anglais, voilà, les mêmes...
Attente.
Je sais pas comment dire en français. Attente, exactement. Donc le fait est que le métier de boulanger en Pologne n'est pas très connu. En plus, le pain est totalement fait différemment de la France. Et en plus de ça, le produit n'est vraiment pas mis en valeur. Même quand c'est un très bon produit, les Polonais vont dire « Ouais, c'est bon », mais ils vont jamais vraiment s'extasier sur un produit comme nous, Français, on peut le faire.
D'accord.
Donc c'est là que je me suis
dit que c'était pas forcément l'idéal de reprendre ce métier-là en Pologne, en tout cas.
Exactement. Et en plus, j'en avais un petit peu marre parce que voilà, j'avais déjà 20 ans, donc je me suis dit.
Ben, tu travailles en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben en même temps, ça va faire un bol d'air frais parce que voilà, la pression en tant que boulanger, se me lever tôt le matin, faire beaucoup d'heures. J'avais un petit peu besoin d'un break et je me suis dit, j'ai jamais travaillé dans un bureau. Les entreprises engagent des Français qui n'ont aucun diplôme. Donc je me suis dit, c'est là qu'il faut que je me lance. Et j'ai commencé à travailler dans un bureau du coup à Cracovie. C'était très bien, mais à la fois c'était pas bien parce que j'ai fait, en fait j'ai travaillé dans la même entreprise mais dans 2 projets différents. Et à Cracovie, je ne travaillais qu'avec des Polonais qui parlaient français. Ou alors avec des Français qui parlaient polonais. Ce qui fait que moi, au travail, j'entendais un petit peu parler polonais, mais j'entendais surtout du français, et ce qui fait que même si j'entendais parler polonais, j'avais pas l'obligation de parler polonais, et donc je ne progressais pas. Je progressais très lentement, on va dire.
T'étais pas assez immergé dans la langue, en fait.
Exactement. Pendant un an et demi où j'attendais j'ai fait mes voyages, etc. J'écoutais, je me rappelle, la radio polonaise, j'essayais de comprendre, d'analyser les mots, d'en inscrire, etc. Mais, donc, du coup, au bout de 1 an et demi en Pologne, je le comprenais plutôt pas mal, mais je le parlais très peu, j'avais peur de me lancer, etc. Et c'est là
que je... Et maintenant, tu te sens comment?
Alors, justement, c'est à ce moment où je suis parti de Cracovie pour Poznan, parce que j'ai eu une offre en tant que boulanger, dans une boulangerie française à Poznan. Et je suis arrivé dans cette boulangerie. Le fait est que personne ne parlait français, ni même anglais. Les 2 pieds dans le plat, j'y suis allé. Et là, de suite, les premiers mots... Enfin, peut-être pas les premiers mots sont sortis de ma bouche, parce que je parlais un petit peu, mais vraiment, il fallait pas que j'hésite, il fallait que j'y aille. On m'apprenait des mots, c'est allé très très vite. Et je crois qu'en 1 an, j'ai fait des progrès, mais énormes. Tant et si bien qu'au bout de, je crois que 6 mois, 8 mois où je travaillais là-bas, dès que je faisais des nouvelles rencontres avec des gens, je passais plus par l'anglais. Je parlais directement polonais.
Ah,
je
faisais beaucoup de fautes. Directement polonais.
Voilà. Mais bon, ça faisait quand même déjà 2 ans et demi que je travaillais ici, hein, donc.
Ouais. Et du coup, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à n'importe qui voudrait s'expatrier, partir dans un pays où ça ne parle pas français ou même pas forcément anglais? C'est voilà, faut y aller et faut vraiment s'immerger avec les locaux.
Le problème, c'est que il y a très peu de pays, en tout cas que j'ai fait, à part l'Italie. Où les étrangers ne parlent pas anglais et ou en tout cas n'aiment pas parler anglais. Ce qui fait que à chaque fois que un jeune français enfin ou un vieux ou n'importe va rencontrer un polonais, les polonais vont passer
d'office
très rapidement
de parler
l'anglais.
En anglais.
Voilà, ah, ils vont lui dire bon ben t'inquiète pas, même s'ils ont pas un très bon niveau, ils vont pas de souci. En plus ça leur fait plaisir de parler anglais. Donc vraiment il y aura pas ce blocage du début. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de français qui peut-être pas jamais, mais qui mettent vraiment des années et des années, et en tout cas ont des blocages pour parler directement en polonais sans passer par la case français ou anglais.
D'accord. Du coup, tu pourrais nous dire une phrase en polonais?
Nie ma problem.
N'importe laquelle.
Może mam mówić po polsku właśnie, ale nie wiem, czy nie będzie problem dla ludzi, którzy będą słuchać ten podcast.
Wow, qu'est-ce que tu nous as dit?
J'ai dit qu'il y avait aucun souci, qu'on pouvait parler en polonais, mais je pense qu'il y aurait des petit problème pour les gens qui vont écouter le podcast.
Merci pour la traduction. Ah, c'est impressionnant. J'ai eu l'impression d'avoir un polonais en face de moi, pour le coup.
Alors
après, j'en ai pas eu beaucoup en face, mais c'est vrai que j'étais bluffée. Enfin, je me suis bluffée.
J'ai un petit, en fait, j'ai un point fort qui est un problème. C'est-à-dire que dans toutes les, bon, après toutes les langues où je parle, on va dire qu'il n'y en a que 3, mais même quand j'essaye de dire quelques mots d'italien, d'espagnol, de portugais que je connais, je cache assez bien mon accent français. Et c'est justement un problème, c'est que maintenant, quand je prends par exemple un taxi, si le chauffeur commence à me parler et qu'il dit, je sais pas, vous avez vu hier dans la ville, ils ont fait un événement, je vais commencer à lui répondre, mais je vais faire des petites fautes de grammaire. Et vu que j'ai pas spécialement l'accent, ils sont pas sûrs si je suis bête ou si je suis étranger. Aussi, parce qu'après il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne, donc ils savent, même si l'accent ukrainien est assez facilement reconnaissable, parfois certains arrivent aussi à le cacher, donc du coup ils savent pas si je suis ukrainien, si je suis d'un autre pays. Alors ils sont un petit peu gênés, et puis au bout de, je sais pas, 3-4 minutes, ils me disent mais est-ce que vous venez de l'étranger? Mais vraiment avec un air pas très
sûr. En fait, finalement, ça serait la première chose à dire. Je suis français, mais je parle polonais.
exactement. Mais le problème, c'est que vu que la Pologne n'est pas spécialement un pays où il y a beaucoup de Français, en tout cas de gens de l'Europe de l'Ouest ou des Amériques qui viennent s'installer, le problème est que tout le monde demande « Ah, mais pourquoi tu vis ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Et moi, en plus, mon histoire est tellement longue et tellement... Enfin, je sais pas, mais elle est particulière.
Et c'est pas commun, comme histoire.
Exactement. Que si je commence à raconter, déjà, ils vont me poser plus de questions. Alors, il faut que je raconte l'histoire à tout le monde, etc. Je la raconte, quand on me la demande, je la raconte, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours la même chose que de rencontrer des gens qui sont pas sûrs de... En plus, ils savent pas si... Parce qu'ils se disent, si je lui demande que c'est un étranger, mais que c'est pas un étranger, je vais me sentir bête.
Donc... C'est ça. Ils ont peur, en plus, de faire une boulette. Je sais pas comment dire autrement.
Non, mais c'est ça. Ils ont vraiment pas de faire la boulette que, je sais pas, moi, je réagisse mal ou...
Tu as dit tout à l'heure que les Polonais s'extasiaient pas forcément sur un produit, donc, on va dire, produit culinaire. Tu peux nous dire un peu plus? Quelles sont les particularités gastronomiques de la Pologne? Est-ce que toi, tu t'es bien habitué à la nourriture? Il y a des choses que t'aimes,
oh là,
que t'aimes moins?
Oh là, oh là. Moi, je suis très spécial de nourriture de base, même avec la nourriture française. C'est-à-dire que pour moi, avant que je dise que quelque chose soit bon, déjà, il faut qu'il passe plusieurs tests, on va dire. plusieurs étapes. Et en fait, c'est très compliqué à expliquer parce que les Polonais... Non, mais c'est pas que les Polonais. C'est pour ça qu'en fait c'est très compliqué. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, voilà, d'un petit peu l'Angleterre par exemple, où on va leur donner, je sais pas, je prends un exemple, mais d'une amie qui est partie avec moi à Bordeaux, et on est allé chez un MOF, un meilleur ouvrier de France pâtissier. on a acheté un petit gâteau qui faisait vraiment la taille de la paume de la main, vraiment des tout petits gâteaux. Mais et je lui dis, mais tu vas voir, c'est exceptionnel, le goût, oh là là, ça va être incroyable. On le mange et moi j'étais vraiment, je montais au paradis. Et la fille m'a dit, mais ouais, c'est bon quoi. Et
là, c'est bon.
Est-ce que je lui dis, mais tu rigoles, c'est pas possible. Je n'ai même vraiment, pourtant j'ai mangé beaucoup de gâteaux, j'adore ça, très très bon. Mais là, c'était vraiment le niveau, mais mille fois au-dessus. Et elle qui me dit, ouais, c'est bon.
Alors, blasé. Là,
blasé. On a fait pareil, on a fait des restos plutôt bons, on peut lever vraiment des trucs vraiment très bons. Et on est sorti du restaurant, on m'a dit, ouais, c'était plutôt bon, hein, c'était quand même pas mal. Hein. J'ai dit, mais non, c'est vraiment presque extraordinaire, quoi.
Et, les attentes sont pas les mêmes.
Voilà, parce que déjà, la cuisine polonaise, c'est une des premières choses qui m'a surpris. Quand on a une cuisine polonaise, il y a à peu près 30 à... Bon, allez, on prend une fourchette basse, 30 à 40 herbes, préparations, alors je sais plus comment on dit exactement en français, mais voilà, des préparations pour le poulet, voilà, à des épices, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Et je prends l'exemple du poulet, parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur exemple. On prend un poulet, on va au supermarché, en Pologne, on voit un poulet, il y a que une, deux à trois marques de poulets différents. Les poulets sont vraiment, on va dire, blancs. Ils ont pas spécialement de goût. Ils sont, on va dire, très industriels, quoi.
Et... Ah oui, c'est pas du tout comme nous en France où on va trouver du poulet fermier, du label rouge.
Exact. On pourrait en trouver en Pologne, mais c'est déjà très rare. Et le fait est que justement vu qu'il a pas beaucoup de goût, les Polonais ont beaucoup de d'épices et tout ça. Beaucoup d'herbes différentes.
Pour l'accommoder le mieux possible, en fait, pour lui donner du goût.
Ouais. Exactement, pour relever un petit peu les goûts. Et ce qui fait que, on va dire que, vu que les Polonais sont habitués à des goûts qui ne sont pas très prononcés de toute leur enfance, toute leur vie, surtout les Polonais qui, on va dire, qui sont nés après le communisme, qui sont arrivés dans les années 90-2000, parce que là, c'était une année où, enfin, des années où il fallait vraiment produire énormément. Donc, ce qui fait que je pense que ça a facilité un petit peu l'industrialisation, et ce qui fait que eux sont habitués à toujours, enfin, ne jamais avoir vraiment de goût. Ce qui est du coup fait que maintenant ils sont un petit peu moins exigeants. Tout ce qui est grand-mère, etc., qui ont 80 ans, là, elles sont un petit peu plus pointilleuses. Mais vu qu'elles ont connu des périodes, on va dire, de vaches maigres, elles se disent tant que c'est dans mon assiette, eh ben, je vais pas me plaindre. Les Polonais ne se plaignent presque jamais de la nourriture. C'est assez bizarre, mais.
Tout est bon, mais c'est juste bon en fait. C'est pas.
Exactement.
On fait pas des grands discours sur un plat particulier.
Exactement.
Mais du coup, quel est le plat typique, par exemple?
Le plat typique, je pense que c'est le pierogi, qui est un petit peu populaire. C'est une espèce de ravioli, mais très gras.
D'accord.
Et très gros aussi, parce qu'il fait à peu près deux fois la taille d'un ravioli que nous on connaît, deux à trois fois cette taille-là. Qui peut être fait vraiment, qui peut être farci de beaucoup de choses. Ça dépend duquel on veut, mais ça peut être de fromage, de viande, d'épinards, de framboises. Il peut vraiment y avoir à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Je crois que c'est ça. Après la patate, les Polonais sont très patates.
D'accord.
Enfin la pomme de terre plutôt. Avec des petites herbes, voilà, des petites choses comme ça. Je sais pas exactement parce que c'est
une image, moi, tu vois, de plat très en sauce, beaucoup de ragoût.
Exactement. Exactement. Beaucoup de sauce. En fait, tout ce qui est plat de pays froid, on va dire.
Ouais, bien plein de nos corps.
Exactement, exactement.
D'accord. Et il me semble que tu avais marqué dans le questionnaire, parce que nos auditeurs maintenant savent que pour participer au podcast, il faut remplir un questionnaire en amont qui nous permet de nous découvrir un petit peu, enfin, découvrir l'invité. Futur. Et tu marquais que tu avais fait plusieurs week-ends typiques dans les campagnes de Pologne. C'est quoi un week-end typique? Ça m'intrigue.
Un week-end typique, alors il y en a beaucoup, mais je pense que j'en racontais un qui m'a marqué et que toute ma vie je m'en rappellerai. Ça faisait à peu près 6 mois, je crois, que je suis arrivé en Pologne. Et j'avais une petite copine à l'époque et on est rentré dans sa famille, donc en banlieue, en campagne autour de Częstochowa, justement. Et déjà la première rencontre avec le père, donc pour faire un petit peu l'image, c'est un petit peu le Polonais qu'on a dans la tête, du Polonais froid, un peu comme Lech Walesa, le fameux électricien qui a fait le mouvement Solidarité en Pologne pour mettre à bas le communisme. C'est vraiment l'homme fort, moustachu, froid, le regard perçant, et donc voilà, serrage de main très voilà très fort qui me regarde comme si attention à ma fille, etc. Exactement. Et puis il est arrivé, je crois, l'heure de, je sais plus quelle heure c'était, je crois que ça devait être 15-16 heures. Et là, on nous donne du gâteau. Alors je me dis, ah ben super, 4 heures le gâteau. Bon, un gâteau pas très bon. Mais je me dis, bon, ben on me donne du gâteau, je mange, je goûte, j'essaye. Une heure plus tard, allez hop, à table. Alors pour un 17 heures, ça faisait même pas 6 mois que j'étais en Pologne. J'avais jamais vraiment vécu ça, donc je me suis dit, bon, ben à table, on y va. Et alors là, à table, c'était table basse. C'est-à-dire dans le salon, table basse. Nous, on est assis sur le canapé. Je me rappelle que le père avait son fauteuil, on va dire le fauteuil du père de famille, voilà. Bien confortable, en bout de table. La mère était en face de moi avec la grand-mère à mes côtés.
Ouf, d'accord. Et cerné.
Exactement. Et là, on commence à manger. Alors, c'était des couscous. C'était un peu une sorte de, entre la purée et la pomme de terre.
Mais ça, à 17h alors.
Voilà, à 17h, il y avait des boulettes de sauce, enfin, de boulettes de viande en sauce. Et je crois qu'il y avait quelque chose d'autre avec, mais j'ai plus vraiment souvenir peut-être de la betterave, parce que c'est très populaire aussi la betterave en Pologne. Et là, le repas commence. Et le père me dit, mais alors en polonais, et ma copine me traduisait avec l'anglais. Alors pourquoi tu es venu en Pologne? Et alors là, je commençais à faire mon blabla, voilà, de la France, pas très bien, tout ça. Mm-hmm. Et là, je me rappelle très bien de son visage qui jette la fourchette en me disant, ouais, bon, n'importe quoi.
Oh,
et là, je l'ai regardé et j'ai dit, enfin ma copine qui me traduisait qu'il avait dit n'importe quoi et tout. Et je lui dis, ben non, enfin c'est ce que j'ai vécu, enfin c'est vraiment mm-hmm. Et lui ouais. A dit
une il phrase, devait se dire c'est quoi cet étranger voilà, qui vient ici français, qui ouais. Se plaint de son pays,
ce français. D'accord. D'ailleurs justement j'en profite pour le placer, il y a une expression en Pologne quand quelqu'un n'aime rien, voilà, qui fait un peu le peine à jouir, comme on dit en français. Mm-hmm. Ils appellent ça un frantuski pièce, un chien français.
Oh mince, d'accord.
C'est l'expression polonaise pour les gens qui n'aiment rien, qui ont vraiment du mal à être heureux, à prendre du plaisir dans quelque chose. C'est un stéréotype qui est un petit peu vrai quand même, que les Français se plaignent tout le temps,
eh oui.
qui sont
grognon.
Jamais contents, etc. Grognons, mmh. Exactement. Et surtout, pour lui, il avait beaucoup de Polonais en tout cas, ont la vision de la France des années 70, 80, jusqu'à 90, où la France va bien, où il y a du travail, etc. Donc pour lui, bah, je dis n'importe quoi. Et c'est
par imaginable.
Contre, la Pologne qu'il connaît avec les soucis politiques, etc. Lui, pour lui, c'est ça son pays. Donc déjà, repas très froid. Déjà, ça avait pas très bien commencé. Là, c'était glacial. Et puis, vient l'apothéose, je crois, du repas. Je finis mon assiette. Puis il y avait de la sauce, de la viande qui était restée. Je prends un air. En fait, je me recule. Avec un air vraiment étonné, très étonné même. Tant et si bien que la mère me demande « Est-ce que tout va bien, Kevin ?» Et je la regarde, je lui dis « Mais il n'y a pas de pain ?»
Ah.
Et la mère de me dire d'un air étonné, elle aussi « Ah ben non, pourquoi ?» Et là, je dis « Ben déjà, il se passe pas un repas sans pain. Enfin, pour moi, c'est pas concevable, surtout moi qui suis boulanger en plus. et là, de lui dire « Ben je sais pas, pour nettoyer la sauce. » Ah, et alors là, je me rappelle très bien, mais elle tourne un petit peu les yeux, elle me fait « Et dans, un petit peu dans ses pensées, elle dit à basse voix, ah, je crois qu'on en a du pain d'il y a 2 jours. Et alors là, je me suis dit,
ah oui, alors là, pour un boulanger, ça devait être l'apothéose, effectivement.
Exactement, je me suis dit, ben, dans ce cas-là, me proposerait, en fait, autant ne rien me proposer. Et en plus, elle m'a sorti un pain, mais très, la fameuse bouka, c'est le petit pain rond polonais, très, très industriel, qui sont faits par millions et millions chaque jour. En plus, dur, mais comme du béton d'il y a 2 jours. Elle l'apporte sur la table. Alors j'ai pas voulu vraiment en rajouter à dire oh ben non voilà ça me plaît pas. J'ai nettoyé ouais. Mon assiette avec ça et j'ai juste fermé ma bouche.
Donc, eux ils ne nettoient pas leur assiette finalement, ils restent de la sauce ouais. Du plat en sauce. Qu'est-ce qu'ils laissent comme ça?
Voilà, ils passent à la vaisselle et c'est terminé.
On peut dire que c'est vraiment une différence culturelle là pour le coup. Déjà dans la nourriture et puis dans la façon de faire et dans la vision de la vie. Toi tu arrives, ils accueillent chez eux un Français qui ose entre guillemets se plaindre de son pays, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ça en fait.
Il y avait de ça et je pense qu'il y avait un autre truc. Je crois que ça a été peut-être le premier choc. Ah non, il y avait eu un autre choc avant que je peux raconter après. Mais le fait est que je m'étais vraiment tellement bien préparé sur la Pologne. J'avais vraiment appris beaucoup de choses. J'avais appris comment marchent les retraites, comment ça marche, je sais pas, pour s'assurer son appartement, etc. J'avais vraiment appris beaucoup de thèmes. Et d'arriver en Pologne en se sentant prêt et me dire en fait oui. Non, je suis pas du tout prêt.
Non. Tu t'étais préparé sur tout ce qui était administratif et tout ce qui est sécurité pour toi, se sentir en sécurité. Mais sur la différence culturelle de comment on vit, de comment on s'imagine un étranger qui vient chez soi, ça, on n'est jamais prêt, en fait.
J'avais appris beaucoup de choses, mais cette chose-là, en tout cas, je ne l'avais pas appris. Autre petite chose aussi qui est arrivée, alors celle-là, elle est arrivée un mois après que je suis arrivé en vivant en Pologne, parce que j'avais fait pas mal de voyages durant la saison de Speedway qui est entre plus ou moins mars-avril et septembre. Mais donc j'avais fait qu'un voyage en hiver, j'avais fait en novembre. Le problème c'est que là, donc du coup, je suis arrivé vivre en novembre 2013 en Pologne, et quand on était en décembre 2013 du coup, déjà oui, un des premiers chocs, c'est que je n'avais pas de travail quand je suis arrivé en Pologne, parce que en fait l'entreprise qui m'a dit oui on va t'accueillir tout ça, en fait deux semaines avant de partir m'ont dit ah ben non, en fait on s'est mal compris, voilà. Je suis arrivé en Pologne sans travail, et pendant le mois où je n'ai pas travaillé, je me rappelle très bien d'ailleurs que je disais à mes parents, si j'ai du travail, parce que je savais très bien que mes parents n'allaient pas me laisser partir s'il n'y avait pas de travail, donc j'aurais dit oui, j'ai du travail, pas de souci. Et puis en fait, je cherchais du travail. Exactement, j'ai mis un mois, d'ailleurs j'ai même mis deux semaines à en trouver, mais pendant le mois où je ne travaillais pas, j'étais un petit peu sur mon ordinateur la plupart du temps, voilà, ben, la vie de quelqu'un de 20 ans, hein, vraiment, à pas savoir quoi faire, s'embêter, regarder des films, etc. Et un jour, je sentais qu'il faisait noir qu'il faisait nuit depuis assez longtemps, et je me suis dit, bon, ben là, je vais aller au lit. Et je vais au lit, j'allume mon portable, il était 17h10.
Ah oui.
Et en fait, vu qu'on est plus au nord et plus à l'est, et qu'on a le même fuseau horaire qu'en France, le soleil se couche environ 1h30 plus tôt. Ce qui fait on était en plein mois de décembre et il faisait nuit à 15h15. Vraiment nuit noire, vraiment.
Et le soleil se lève plus tôt ou pas du tout?
Il se lève également plus tôt, ce qui fait que l'été, il fait aussi plein jour à 4h du matin.
Oh là là, dur.
Voilà. Donc le fait est que je vais au lit, donc au final je savais pas quoi faire, je me suis réveillé, tout ça. Et aux alentours, bah, du coup le 24 décembre, la veille de Noël, je me suis dit, j'avais mon frigo presque vide. Et je me suis dit, pourquoi pas aller faire les courses, comme ça, pour le 25, j'aurai le frigo plein. Et puis, je vais pour faire les courses, j'arrive, je crois, il était 15h30, devant le centre commercial, et là, je vois que c'est fermé. Et je me suis dit, déjà, on va manger des pâtes demain. Des pâtes pour un jour, enfin, pour le 24 et le premier repas du 25. J'avais que des pâtes.
D'accord.
Et je me suis dit, on va faire les courses le 26. Tant pis, c'est vraiment catastrophique. Mais au pire, le 25 au soir, on va aller manger, je sais pas, au McDonald's, quelque chose.
Quelque chose d'ouvert.
Exactement. Et puis, le 25 arrive, je mange mes pâtes. Le soir, je cherche un McDonald's. Aucun McDonald's d'ouvert.
Ah oui.
Tout était fermé, même tout ce qui, voilà, restauration rapide, tout était fermé. Incroyable. Moi, j'étais vraiment en choc, déçu, en plus. J'espérais vraiment, c'était mon dernier espoir pour manger, même si je pouvais attendre jusqu'au lendemain 26, mais bon. Le 26, je me lève, je me rappelle à 10h du matin, je me dis, allez, aujourd'hui, on va faire les courses. Et j'attends le bus, et je vois que le bus n'arrive pas à l'heure prévue. Donc, je me commence à me poser des questions, je me suis dit, le bus est en retard, après tout, pourquoi pas. Il n'y avait pas grand monde dans les rues, et je me suis dit, une journée un petit peu bizarre. J'arrive devant le centre commercial, et là, je vois que tout est fermé.
Encore ?
Et alors là, choc. Choc total pour moi. Je me rappelle que j'écris à ma petite copine de l'époque, je lui dis, mais pourquoi tout est fermé? Je comprends pas, j'étais vraiment... stressé, quoi, vraiment. Je suis allé à la gare de Cracovie, qui est probablement la gare la plus traversée du pays, et j'ai mangé un hot dog vraiment pas bon, et entre-temps, elle me répond, ah ben, c'est Noël. Je lui dis, non, Noël, c'était hier, c'était le 25. Aujourd'hui, on est le 26, c'est pas Noël. Elle me dit, si, Noël, c'est deux jours.
Ah,
et
ouais,
alors là, j'étais choqué.
Donc, 24, il ferme plus tôt, et puis c'est 24 au soir, 25 et 26 toute la journée. D'accord.
Exactement. Les magasins ferment environ entre 13h30 et 14h30 le 24 et ne rouvrent que le 27.
C'est bon à savoir, parce que quelqu'un qui viendrait, je sais pas moi, un étranger, enfin un français ou autre, qui se dit je vais passer Noël en Pologne parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de découvrir. Il faut savoir que, faut prévoir le coup.
Il faut aussi prévoir que le 24 au soir et le 25, pas spécialement beaucoup de restaurants ouvrent, même des restaurants classiques. Bon, déjà quand ils ouvrent, c'est sur commande, enfin c'est sur réservation. Ouais. Mais en plus, pas beaucoup ouvrent pour une bonne et simple raison, c'est que les Polonais, sont très 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 famille et très 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 tradition, on va dire. Ce qui fait que beaucoup de serveurs et de cuisiniers, pour eux, hors de question de travailler parce que c'est la famille et puis c'est comme ça.
Bien sûr.
Le marché du travail est tel qu'en Pologne, il y a très très peu de chômage. Je crois que dans ma région, le chômage est à 1%.
Ah oui.
Je crois que sur la moyenne en Pologne, je crois que c'est vers les 3%. Et c'est même pas vraiment du chômage, ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Donc c'est pas spécialement qui touchent le chômage, c'est les gens qui travaillent pas.
D'accord. Donc c'est le plein emploi en fait.
Pratiquement, exactement. Le fait est que voilà, vu que les patrons ont des pressions des employés qui disent ah non moi je travaille pas, ben en fait ils ont pas le choix. Ils vont pas lui dire dans ce cas-là t'as qu'à partir ailleurs, etc. Non, ils veulent garder leurs employés. Du coup voilà, les restaurants n'ouvrent pas spécialement. Et c'est pour ça que vraiment il faut prévoir le coup si les gens viennent passer Noël en Pologne. Du coup, ça s'est fini d'ailleurs mon histoire que le 26 au soir, j'ai réussi à trouver un seul McDonald's dans tout Cracovie, qui est quand même une ville de plus d'un million d'habitants, je le répète.
Ouais.
Un seul McDonald's dans le plein centre qui était ouvert. Et en fait, c'était très drôle parce que pas du tout. Il était presque vide.
Ah oui.
Presque vide. Et je pense qu'un bon 60% des clients, peut-être même 80%, étaient des étrangers.
Eh oui, qui n'avaient pas prévu le coup.
Exactement, je pense qu'on était tous dans la même galère. Et en plus, le fait est que les quelques jours avant Noël, tout le monde va faire ses courses, tout le monde va acheter de la nourriture et tout ça. Le 27, vu que tout le monde a le frigo vide, tout le monde revient faire ses courses.
C'est plein.
Exactement.
En fait,
exactement.
Faut faire ses courses le 21 ou le 30, mais entre deux, tu fais plus rien.
Exactement. Et il y a la même chose pour Pâques, car la Pologne est un pays très très chrétien.
Oui.
Les Pâques est presque plus important que Noël. En tout cas, il y a beaucoup familles où c'est plus important. Ce qui fait que pour Pâques, j'ai entendu une statistique sur l'année 2019. La statistique est que la moyenne de kilos de nourriture dans les frigos polonais pour Pâques, c'est 30 kilos.
C'est énorme.
Oui, c'est extrêmement énorme, j'ai envie de dire, c'est ça.
Oh là là, c'est fou.
Voilà, les Polonais ont environ 30 kilos de nourriture pour Pâques dans leur frigo.
Ah. Ah, c'est impressionnant. Dis donc.
C'est ça. Et en plus, alors moi, ce que j'avais pas spécialement évité, alors je me rappelle plus quand c'était, je crois que c'est quand j'étais arrivé sur Poznan, c'était aller à la gare. Pareil, il faut éviter d'aller à la gare les dimanches soirs ou les vendredis soirs. Parce que vu que les Polonais sont très famille, les Polonais sont très étudiants aussi. À peu près un bon 90% des jeunes Polonais ont le bac, même peut-être 95%. Et sur ces 95%, 90% vont à l'université.
C'est énorme quand même.
C'est fou. Et ce qui fait que jeunes, en tout cas, vivent principalement dans les très grandes villes. Et puisqu'ils vivent dans les très grandes villes et qu'ils sont très famille, le week-end, ils rentrent voir leur famille. Ils font une heure et demie de train. Bon, pour eux, une heure et demie de train, c'est vraiment presque rien. Ils y reviennent tous les week-ends, quoi.
D'accord.
Voilà, moi, j'avais, par exemple, un ami, un colocataire, qui, quand je vivais à Cracovie, avait sa famille, je crois, à 8 heures de bus, et il y revenait un week-end par mois. Un week-end par mois, il se tapait 16 heures de bus.
Eh ben, oui, faut être motivé, hein.
Et ça, c'est vraiment un cas vraiment pas à part. Hein.
C'est vraiment très intéressant tout ce que tu nous as raconté sur la Pologne. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu te vois vivre encore longtemps en Pologne? Est-ce que tu te vois rentrer en France? Est-ce que tu as des projets pour l'avenir?
Moi, je n'ai vraiment pas prévu de rentrer en France. Quand je suis parti, c'était vraiment pour moi, j'avais 22 ans. Je me suis dit en partant, si je pars, c'est au moins pour aussi longtemps.
Ah oui.
Moi, c'est
donc on peut souhaiter encore beaucoup d'années, de longues années en Pologne.
Exactement, surtout qu'en ce moment ça se passe très bien, j'ai un travail que j'aime dans une entreprise qui vraiment a une bonne dynamique. En plus de ça, je donne des cours de français, ce qui fait que j'ai un salaire, même si je fais beaucoup d'heures, un salaire très correct, donc j'ai un bon rythme de vie. Tout se passe très bien, donc voilà.
C'est chouette, c'est super, et on te le souhaite que ça continue. Vu que tu es un auditeur du podcast et de la première heure, tu sais qu'on aime bien demander à nos invités des lieux, des endroits, peut-être un restaurant, à nous recommander. Quel conseil, quel endroit tu recommanderais à des personnes qui viendraient visiter la Pologne?
Alors j'ai envie d'éviter de citer Varsovie et Cracovie, qui sont pour moi beaucoup trop visités. Je vais pas dire surfaite parce que voilà, Varsovie, il y a beaucoup Varsovie est surfait, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup d'histoires notamment la deuxième guerre mondiale. Cracovie, c'est magnifique, il y a énormément d'histoires, de très beaux vieux bâtiments qui ont leur histoire ben oui, personnel, on va dire. Propre, voilà, qui sont trop visités. Par contre, moi, je conseillerais une autre ville pour commencer. Je pense que Torun. Alors, Torun, ça ne dit pas spécialement grand-chose, mais si je dis Copernic, ça parle un petit peu plus aux gens.
D'accord, oui.
C'est la ville d'où est originaire Copernic. Torun, c'est à peu près, c'est entre Varsovie et la ville de Gdańsk qui est sur sur la mer Baltique. Et c'est environ, voilà, à mi chemin, on va dire. C'est vraiment magnifique. C'est une ville de, je crois, 150 000 habitants. C'est très beau. Les bâtiments sont pleins de couleurs, mais même l'architecture, c'est très très bien entretenu. La ville de Torun a aussi beaucoup, il faut le dire, de revenus financiers avec pas mal d'entreprises, et tout est réinvesti dans la propreté de la ville, la rénovation des bâtiments, etc.
D'accord, donc très agréable de la visiter.
Ensuite, je vais citer, pour la ville où je vis, je pense que je vais citer le Stacia Café. C'est un petit bar qui est vraiment à deux pas de la place centrale, de la place du marché, qui en fait ne paye pas de mine comme ça, et quand on y rentre, c'est un bar et pub qui sont juste séparés par un petit corridor, donc c'est attaché, on va dire.
Il y a l'ambiance
pub, voilà, au sous-sol, avec des tables tout simplettes, et il y a l'ambiance café, là où c'est des vieux canapés, des vieilles tables, lumière tamisée avec une petite musique. C'est autour du train, donc il y a au sol, il y a par exemple une voie de tramway posée sur des, donc le sol est en pierre, on va dire en pierre pavée, il y a un chemin de pavé, il y a une petite horloge comme dans les gares, il y a plusieurs dessins de trains sur les murs. J'aime beaucoup. Et je pense que pour terminer, je vais citer... Alors, le problème, c'est que je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom de cet endroit. Mais les auditeurs qui vont voyager dans la ville de Wrocław, aussi connue avec le nom de Breslau, au sud-ouest de la Pologne, c'est sur la place centrale. Si vous cherchez un petit peu, vous avez une porte, une grande porte, qui va vous amener au sous-sol. Alors, c'est assez profond. C'est un sous-sol, du coup, sous la place centrale. Et là, c'est une brasserie qui fait sa propre bière. Ce qui est très commun en Pologne, c'est sa propre bière qui est excellente, avec vraiment un plafond qui doit être, je pense, à 3 mètres de haut, des grandes cuves où la bière est faite vraiment à quelques mètres seulement. Voilà, les serveurs sont gentils, les prix sont pas spécialement très élevés, alors que c'est sur la place centrale et que la bière est très bonne. Donc,
oui, voilà, parce que c'est pas très connu, j'imagine qu'il y a pas beaucoup de touristes qui viennent trouver cette porte et descendre dans ces catacombes pour aller boire une bière.
Les touristes polonais connaissent l'endroit parce que c'est quand même assez facile à trouver. Mais les étrangers, vu que c'est pas marqué avec de l'anglais, des mots comme ça, je pense qu'ils évitent un petit peu l'endroit. Enfin, ils passent à côté de l'endroit. Et donc,
oui, sans savoir ce qui s'y cache.
Exactement. Alors, et en plus, ils font
restaurant.
Merci
pour le tuyau. Super. Merci beaucoup, Kevin, pour cet épisode. C'était très intéressant.
Merci à toi pour l'invitation et puis pour l'interview. Et puis, j'espère à très bientôt.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts, c'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcasts récemment. Un grand merci à C'est Justine qui nous vient de France, qui nous dit « Podcast rempli de témoignages intéressants qui nous permettent d'avoir un aperçu de la vie d'expatrié. » Eh bien écoute, merci à toi, C'est Justine, pour ton soutien, ta fidélité, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpatLePodcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!